Des livres plein les oreilles. Bonjour, je suis Clotilde Sey, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission des livres plein les oreilles consacrée aux livres audio. Et vous savez que vous pouvez nous écouter en tout temps via le site internet de Canal M, la radio de Vues et Voix, ou encore à CKVL qui reprend l'émission, ou encore en balado, évidemment. Alors à l'émission cette semaine, on rêve tous de donner le meilleur de nous-mêmes, mais pour toutes sortes de raisons, on n'est pas toujours au top, peut-être simplement parce qu'à vouloir être trop bon, on en fait trop, ou peut-être qu'on se juge un peu trop fort, ou peut-être qu'on a peur du jugement des autres. Bref, Benoît Chalifoux, lui, est un homme qui en a long à dire sur le sujet, et pas seulement en tant que conférencier. Il a voulu à tout prix que son livre, parce qu'il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Être à son meilleur », soit également disponible pour les oreilles. Il est d'ailleurs venu l'enregistrer chez Vues et Voix. C'est maintenant à notre catalogue et il va répondre à mes questions dans quelques minutes. Je voudrais aussi rendre hommage à Derek Aucoin, qui, joueur de baseball émérite, a pris le temps, quelques mois avant sa mort, avant sa disparition, de venir enregistrer son livre également dans nos studios. Ça s'appelle « La tête haute ». Et puis en seconde partie, on va retrouver la pétillante Claudia La Rochelle qui nous présente aujourd'hui des livres en audio de deux autrices qu'elle affectionne particulièrement, Annie Ernaux et Laure Adler. Et enfin, vous êtes très nombreux à vous procurer les livres d'Amélie Nothomb. Eh bien, sachez qu'elle marie maintenant sa passion pour la mythologie à celle des histoires qui s'écoutent. Oui, oui, en faisant paraître une série sur balado via Audible. Je vais tout vous dire et bien évidemment, il y aura des extraits de tout cela tout au long de l'émission. C'est ainsi que ça part des livres plein les oreilles. Bye.
La partie de votre cerveau qui permet d'assimiler des compétences techniques et cognitives se nomme le néocortex. Sans entrer dans les détails scientifiques, il s'agit de la partie associée à la pensée et à la logique, qui se distingue notamment par la vitesse à laquelle elle acquiert de nouvelles connaissances. C'est malheureusement tout le contraire pour la partie que l'on pourrait appeler le centre émotionnel. Tout en gardant actif le néocortex, cette partie de votre cerveau doit s'activer afin de permettre le développement des compétences comportementales et humaines. C'est seulement en combinant la partie de votre cerveau associée à la logique et celle liée aux émotions que vous réussirez à déclencher ce processus. Pour être en mesure de développer une habileté de ce type, vous aurez donc besoin de beaucoup de répétitions et d'entraînement. Et cela prend du temps. Beaucoup de temps.
Du temps, beaucoup de temps. Quand on s'aperçoit adulte qu'on a un problème avec nos communications, on vient de l'entendre, ça prend du temps, beaucoup de temps pour désapprendre et réapprendre. Est-ce que j'ai tout compris, Benoît Chalifoux?
Tout à fait, bonjour. Comment vas-tu?
Ça va bien, Benoît, bien, bien. Benoît, j'avais hâte de me plonger dans ce bouquin « Être à son meilleur ». J'ai toujours pensé que la communication, et plus précisément la relation interpersonnelle, devrait s'apprendre dans nos écoles. Et je me suis dit, en lisant ce livre, que tout, dans toutes les pages, me donne raison, Benoît Chalifoux.
C'est gentil. C'est vrai que quand on y pense, on apprend à lire, à écrire, à faire des présentations orales.
Ouais.
Mais on oublie d'apprendre. En fait, on nous montre pas à apprendre, à écouter, qui représente la fondation de tout ça.
Mm-hmm. Ah oui, écouter, hein. Ça, c'est un mot qui revient. D'ailleurs, je vais revenir, moi, beaucoup sur des mots qui reviennent régulièrement dans ce livre. Et ce sont des mots et des notions qu'il faut assimiler pour éventuellement devenir un jour un bon communicateur et développer de bonnes relations interpersonnelles. L'élément déclencheur, dites-vous, Benoît Chalifoux, c'est la connaissance de soi. En quoi cela est-il? Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les gens qui se connaissent bien?
Ben, ce qu'ils ont de plus, c'est qu'ils sont capables d'équilibrer. Ce que je me suis rendu compte des gens qui ont une grande connaissance d'eux, c'est plusieurs choses. Une première, c'est qu'ils ont cet équilibrage presque automatique entre cette grande confiance qu'on a donc besoin dans notre vie et cette humilité qui nous permet de rester « grounded » sur le sol, comme on dit.
Mm-hmm.
La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que c'est des gens qui ont une autodérision de qui ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont très à même de leur sensibilité, leurs angles morts, et de leur force également.
Mm.
Et donc, ils n'ont aucun problème d'adresser leur sensibilité, leurs angles morts, avant qu'on leur dise. Et donc, ils encouragent par ce contexte de vulnérabilité les autres à peut-être même pousser davantage nos lacunes où on peut s'améliorer. Et c'est ce qui nous permet de comprendre qu'on a un problème d'écoute, c'est de l'adresser et, à l'aide des gens, de peut-être même y pallier.
Évidemment, j'ai 10 000 questions, hein, Benoît, parce que je suis sûre que ça correspond aux questions que bien des auditeurs aimeraient pouvoir vous poser maintenant. Comme on n'a qu'une douzaine de minutes, je voudrais tout de suite dire, là, le bouquin existe, hein, être à son meilleur. Alors, que ce soit sur papier ou par les oreilles, ça me semble essentiel. C'est un bouquin à avoir dans sa bibliothèque. Mais vous dites que pour s'améliorer, Benoît Chalifoux, cela prend aussi de sortir de sa zone de confort. Vous n'avez pas peur de faire peur en disant ça?
C'est pour ça que depuis quelques mois, depuis la sortie du livre, je remplace, selon avec qui je parle, qui m'adresse, d'étirer sa zone de confort si vous ne voulez pas y sortir. Mais assurez-vous de l'étirer à tous les jours.
Ouais.
Un peu comme une élastique. J'entoure autour d'un élastique quelques crayons, ils vont tenir en place. Et à un certain moment, il y aura une certaine tension qui sera installée. Et je pourrai introduire un deuxième, un autre crayon. Et la tension va maintenir un certain temps et je pourrai encore l'étirer. C'est la clé d'étirer toujours sa zone de confort parce que c'est là où on se découvre des talents cachés.
Oui,
c'est là où on se découvre des opportunités. Et c'est là où on devient en connaissance de soi 4.0, si je peux dire.
Oui, mais si vous rentrez un crayon de trop, l'élastique, il va péter.
Exactement. Pourquoi l'étirer à petite dose est très important.
Ben oui, c'est ça. Alors, les défis du début du livre me semblaient primordiaux. Hein? Y en a cinq. Il y a être plus conscient, donc oui, voilà. Donc avoir plus conscience de quoi, de ce qui nous entoure et de ce qu'on est.
Oui, tout à fait. Ça peut être aussi anodin que prendre une conscience que d'abdiquer lorsque vous voyez un autre être humain. On a perdu cette capacité, hein, prendre oui. cette conscience de notre société dans laquelle on vit, et ça passe par considérer les êtres humains comme des êtres humains autour de vous. C'est un geste banal, oui. certes, mais qui est fondamental.
Et qui nous amène à l'empathie.
Tout à fait.
Être capable d'être plus empathique envers l'autre.
On appelle, en pandémie, on a appelé ça l'empathie collective.
Oui, c'est vrai.
C'est important. Les ça va bien aller et compagnie, c'est de l'empathie collective.
Ouais. Et puis, être à l'écoute, ça, on en a déjà, c'est un mot que vous avez déjà utilisé aujourd'hui. On a l'impression que les gens ne savent plus écouter aujourd'hui. On a l'impression que on passe notre temps, on dirait que notre pensée va plus vite que la parole de l'autre et qu'on lui coupe constamment la parole. C'est très désagréable, ça, non?
Mais je vous rassure, c'est pas on dirait, c'est vrai. Lorsque je te parle, il faut que j'accélère le débit de ma parole parce que ton cerveau trouve ça lent, terriblement lent. En fait, ton cerveau a une capacité d'absorber les mots à peu près à hauteur de 8 à 900 mots par minute, alors qu'on a un débit moyen de 2 à 300 mots par minute. Il y a de l'espace entre qui nous permet de réfléchir à autre chose. Et là, on perd l'attention de la personne qui nous parle. Et évidemment, le téléphone n'est rien pour aider parce que ce téléphone a considérablement limité notre capacité d'attention.
Effectivement. Et puis, la différence, quelle différence faites-vous, Benoît Chalifoux, entre être empathique et être altruiste?
Oui, très intéressant. L'altruisme se développe au fur et à mesure qu'on développe notre empathie. C'est un petit peu plus loin. Par exemple, après l'empathie vient ce qu'on appelle la compassion.
Oui.
La compassion qui est un geste qui nécessite un certain effort supplémentaire, soutenu, qui nous mène à une action concrète. Et c'est là où on arrive à faire de l'altruisme avec les gens qui se trouvent autour de nous. Et c'est par le ressenti. Je vais vous donner un exemple concret. Hier soir, je m'en vais à l'épicerie, je vois une dame en arrière de moi qui attend avec son sac de farine et je vois qu'elle pourrait attendre longtemps. Je dis, madame, scannez votre sac de farine. Elle le scanne, je dis, allez-vous-en, je vais le payer pour vous. C'est un ressenti que j'ai eu. Pauvre madame, elle fait gros sac de farine, ça m'a coûté quelques dollars, et puis quoi?
Ben oui.
Ça l'a amené une certaine compassion. Vous voyez un peu?
Absolument. Mais ça, vous ne pensez pas... Oh, bon, j'essaie de me faire un petit peu l'avocat du diable, même si je ne crois pas un mot de ce que je vais vous dire, mais vous ne croyez pas que ça appartient fondamentalement à certains êtres humains et pas à d'autres? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend?
Oui, c'est quelque chose qui se développe.
L'essayer,
c'est l'adopter parce que d'ailleurs, en ce moment, il n'y a pas un meilleur moment qu'être généreux envers autrui, être empathique envers autrui. Vous savez, quand on est généreux, lorsque je vous donne quelque chose sans intérêt, ce qu'on appelle un geste désintéressé, je sécrète une hormone, l'hormone de du bien-être collectif qu'on appelle l'ocytocine. Mm-hmm. Et l'ocytocine est l'hormone qui est produite lorsque je te serre fort dans mes bras, chose qu'on n'a pas fait depuis tant de temps.
Boy.
Et une manière de le répliquer à grande dose, c'est ces gestes de générosité, de bonté, qu'on peut multiplier partout autour de nous sans connaître la personne.
Il y a aussi une phrase que j'ai beaucoup aimée. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vous-même extraite de propos d'un auteur ou d'un philosophe, je ne sais plus bien, mais pour vivre bien, vivre mieux, bon, ne pas oublier de travailler la compétence humaine plus que la compétence technologique, par exemple.
Absolument, parce que dans l'ère dans laquelle nous arrivons, c'est une ère dont l'outil principal est la technologie.
Oui.
Il y a quelqu'un qui la conduit, cette technologie, et c'est l'être humain. Les présidents et présidentes pour lesquels j'adresse mes conférences dans le domaine technologique me le disent. Monsieur Chalifoux, la compétence technologique clé en 2021, c'est la compétence humaine. Ils me répondent du tac au tac, la compétence technique, elle est toujours temporaire. Elle va se faire remplacer toujours plus rapidement par une autre technologie plus sophistiquée. Par contre, la vivacité, la capacité intellectuelle, cette curiosité sans borne d'être un apprenant à vie, ça doit être permanent.
Oui, je comprends. Et puis, il faut également tous que nous composions avec nos émotions. Et là, pas de question tout de suite, mais un autre extrait où il est question de ces satanées ou de ces divines émotions.
Avant d'aller plus loin, posons-nous quelques questions. Qu'est-ce qui constitue les fondements de l'intelligence émotionnelle? Qu'est-ce qui se trouve au cœur de nos habiletés relationnelles? Qu'est-ce qui déclenche nos états d'âme, nos réactions impulsives ou contrôlées et notre manière d'agir dans des contextes précis? Vous l'avez certainement deviné, ce sont nos états affectifs, que nous appelons aussi nos émotions. Selon les plus grands chercheurs en psychologie, nous serions capables de distinguer plus d'une centaine d'émotions chez l'être humain. L'un des psychologues les plus reconnus pour ses travaux sur le sujet, Philip Shaver, a recensé 135 différentes émotions qu'une personne peut ressentir dans son quotidien. Si l'on ramène le sujet à sa plus simple expression, il existe, selon le psychologue américain Paul Ekman, 7 émotions principales: la joie, la tristesse, la peur, la colère, la honte, la surprise et le dégoût. Fait intéressant. Les recherches ont démontré que la joie est la seule émotion que notre cerveau tente de reproduire en permanence.
Fait intéressant et fait rassurant aussi, parce que c'est peut-être comme ça qu'on passe au travers de toutes ces épreuves qui sont les nôtres, non?
Oui, la résilience notamment,
oui.
On connaît ça depuis
oui.
un an. Oui, tout à fait, j'ai découvert cette... en lisant beaucoup, évidemment, lorsqu'on écrit un livre, on doit lire et
bien
relire
sûr.
Et relire plein de sciences, plein de recherches. Et je me suis rendu compte que l'agilité, on est doté d'une agilité émotionnelle hors norme dont les humains ont seuls cette capacité. Et c'est d'être capable de nommer l'émotion qu'on vit, de comprendre que c'est une information très concrète qui nous demande de passer à une action concrète pour passer à notre autre émotion qui va nous mener naturellement à un certain moment à notre émotion de base qui est la joie.
Et j'aimerais préciser qu'évidemment, là, en ce moment, avec le confinement, j'imagine que les conférences se font rares, mais est-ce que vous en donnez virtuellement ou...
Oui, tout à fait. En fait, ils se font pas du tout rares. J'en ai jamais donné autant.
C'est vrai.
Qu'en ce moment, j'ai jamais été aussi occupé. Bon, premièrement, à cause du sujet.
Bien
grâce
sûr.
Grâce au sujet, devrais-je dire. Et également parce que les gens se sont fait à l'idée ça doit se passer en mode virtuel, les conférences en ce moment. Donc, il y a eu, malheureusement, évidemment, une perte sèche au départ,
oui.
Pendant quelques mois, mars, avril. Et après, ça s'est refait là très rapidement et de manière assez importante.
Comme quoi, c'est un besoin, être à son meilleur, l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles. Ce confinement, là encore, a comme souligné l'importance de la communication entre les êtres humains, plus importante que toute forme de technologie. On va se quitter là-dessus. Benoît Chalifoux, merci beaucoup pour ce livre. Merci d'être venu le lire par vous-même chez Vues et Voix. Alors, pour les auditeurs, bien sûr, le livre est disponible dans toutes les librairies, mais aussi en audio sur le catalogue livreaudio.vuesetvoix.com. Merci, Benoît Chalifoux.
Merci à vous. Merci infiniment.
De rien, au plaisir. Il lui suffit d'une savais qu'il allait me surprendre, mon ami Jean-Sébastien, qui a programmé cette chanson d'Isabelle Cyr qui s'appelle « Une fois », qui nous amène, même si ça n'a pas franchement de lien, et ce n'est pas grave, mais ce qui nous amène peut-être d'une beauté à une autre. Parce que je voudrais passer quelques minutes, consacrer quelques minutes à la mémoire de Derek Aucoin. Derek Aucoin qui nous offre dans un livre qui s'appelle « La tête haute, une histoire de baseball et de gratitude ». Pour mettre tout de suite les choses au clair, si des fois vous l'ignoriez, mais Derek Aucoin, joueur de baseball, qui est également devenu pendant de nombreuses années chroniqueur, analyste sportif pour une chaîne bien connue en sport ici, il a vécu dans les derniers moments de sa vie, il a souffert d'un cancer du cerveau qui a fini par l'emporter à la fin de l'année dernière. Et quelques mois, peut-être même quelques semaines avant qu'il ne disparaisse, il est venu en studio et il a tenu à lire lui-même cette histoire, ce livre qu'il a écrit, qui s'appelle « La tête haute », qu'on peut maintenant donc trouver non seulement sur papier, mais également en livre audio dans le catalogue de Vues et Voix. Et il était accompagné par Isabelle, sa femme, son grand amour. Et c'est elle qui participait avec lui, qui l'encourageait à lire ce livre-là. Il était très, très discret, donc j'ai pas de souvenirs. Moi, malheureusement, je n'ai pas pu converser avec lui, je n'ai pas pu, mais je sais qu'il était là religieusement, heure après heure, dans ce petit Cagibi, qui est un studio d'enregistrement de livres audio, pour nous partager ce livre « La tête haute ». Alors, voilà, donc le grand Derek Aucoin qui s'est d'abord toujours considéré comme l'être le plus chanceux du monde. Et c'est un être qui a toujours débordé, maladie ou pas, qui a toujours débordé de gratitude. Et la tête, il l'a tenue plus haute que jamais, même dans les moments difficiles. Et ce livre est un précieux témoignage. C'est un peu comme un héritage qu'il dédie à son fils Dawson, mais aussi d'ailleurs à tous ceux qui ont un jour ou l'autre croisé sa route de près ou de loin. Et permettez-moi d'avoir une pensée pour Mark Griffin, qui en a vu deux disparaître assez rapidement, comme ça, dans la dernière année. Et voilà, c'est parce que Marc aussi était venu enregistrer son livre et avec comme thème principal le baseball. On va écouter un extrait de La tête haute et c'est la voix de Derek Aucoin que vous allez entendre.
Un exercice que j'aime faire en marge de ces conférences, c'est le défi des 30 jours. En quoi ça consiste? J'invite les participants à appeler quotidiennement deux personnes différentes au cours des 30 jours suivants. Le but, les remercier de faire partie ou d'avoir fait partie de leur vie. Ça peut être un membre de la famille, un ami, un partenaire d'affaires, un ancien entraîneur ou même un enseignant de l'école primaire ou secondaire. Et à la fin du défi, la personne doit me contacter pour me dire que les 30 jours sont complétés. Je suis souvent la 60e personne que l'on remercie. Et chaque fois, le constat est le même. Il est toujours bon de témoigner notre amour et de renouer avec des personnes qui ont été importantes à un moment ou à un autre de notre vie.
Oui, encore une fois, les hasards de la programmation. On parlait de cette gratitude-là, d'empathie, d'altruisme, un petit peu plus tôt avec Benoît Chalifou. Et là encore, c'est très présent en cette première demi-heure d'émission avec Derek Aucoin. Derek Aucoin qui n'avait qu'un seul rêve depuis qu'il était ticu, comme on dit, c'était porter les couleurs des Expos de Montréal. Go for it! Eh bien, ces trois mots ont été lancés par son idole André Dawson, qui vont le guider dans son ascension vers le baseball professionnel et il deviendra, en 1996, un des rares Québécois à jouer pour l'équipe de Montréal. Vous aurez remarqué que son idole s'appelait André Dawson. Il a donné comme prénom à son fils le nom de famille de cet homme-là, donc qui lui disait « go for it ». Alors voilà, c'était ma façon à moi de rendre hommage à Derek Aucoin, disparu en 2019 des suites d'un cancer du cerveau. Et puis, bien sûr, la tête haute est en livre audio dans le catalogue livreaudio.vuesetvoix.com sous le titre « La tête haute » de Derek Aucoin. Restez des nôtres, c'est Clotilde Say qui vous accompagne. Et je ne serai pas toute seule. En seconde partie, je vais retrouver la lumineuse et pétillante Claudia La Rochelle qui nous présente deux livres de ses autrices préférées. Et puis après, eh bien, on va retrouver la comédie divine d'Amélie Nothomb. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Et c'est encore la fête des femmes pour moi. Ben oui, ça arrive régulièrement à cette émission qu'on fait ça style 8 mars. Je vois pas pourquoi je ferais ça juste une journée. Ça arrive tout le temps, en fait. Ben, souvent. Mais bon, c'est vrai aussi que plus souvent qu'autrement, je ne le fais pas exprès, mettons que ça tombe comme ça. Mais j'aime bien quand ça tombe comme ça. Alors, on va retrouver avec grand bonheur, dans cette seconde partie, Claudia La Rochelle, qui va nous parler de deux œuvres signées de deux autrices qu'elle affectionne particulièrement, Annie Ernaux et Laure Adler. Et puis, je voudrais vous présenter la divine comédie de la non moins divine Amélie Nothomb, qui découvre avec bonheur la lecture qui s'écoute et qui nous offre ainsi des balados sur fond de mythologie, et tout ça via Audible. Mais d'abord, Claudia La Rochelle. Salut Claudia.
Salut Clotilde, je suis tellement contente de te parler. Merci de m'avoir. Sais-tu pourquoi? Parce que moi, ces deux femmes-là, là, si un jour on me dit avec qui tu veux faire des entrevues, là, ben d'abord, j'ai eu la chance d'en faire avec Laure Adler deux fois plutôt qu'une, et ça a été des moments formidables à chaque fois. Et il y a juste Annie Ernaux, j'ai jamais eu la chance de la rencontrer, mais c'est deux femmes pour qui j'ai un respect incroyable. Et Annie Ernaux, je suis une fan. Là. Ça, c'est l'admiration. Là, je suis complètement tout ce qu'elle dit. J'écoute et je bois ses paroles. Voilà.
Bon. Alors Annie Ernaux, allons-y avec elle. D'ailleurs, c'est elle qui il y a quelques mots d'elle, je crois, dans les toutes premières pages du livre de Laure Adler, ou alors c'est un autre bouquin de... Ah oui, non, c'est dans... c'est dans Immortel, qu'il y a quelques mots d'Annie Ernaux en préambule. J'ai dit, oh mon Dieu, elles sont vraiment pas loin l'une de l'autre, ces deux-là. Alors Annie Ernaux, Regarde les lumières, mon amour. Ça existe en audio, c'est fait chez Écoutez lire, c'est lu par Françoise Gillard, oui, ça se prononce comme ça. Quel bouquin, quel témoignage.
Peux-tu dire, Clotilde, que pour écrire sur un supermarché qui appelle en France les hypermarchés.
Les hypermarchés, oui.
Pour écrire sur un supermarché, là, sur plusieurs pages comme ça, faut être drôlement habile pour rendre ça fascinant et passionnant comme elle le fait. Tu sais, parce que...
Absolument, et ce l'est. Ce l'est parce que elle touche absolument à tous les défauts, à toutes les faiblesses et toutes les forces de la société, mais surtout les défauts et les faiblesses, je dois dire.
Ah oui, c'est fou. Puis c'est drôle parce que j'ai lu ça quand c'est sorti, donc en 2014, aux éditions du Seuil. Et quand j'ai lu ça, depuis ce temps-là, tellement que ça m'a marqué, chaque fois que je vais à l'épicerie, je fais l'exercice dans ma tête et je ne vois plus les épiceries de la même façon. Un projet auquel elle a participé, qui était raconter la vie, et c'est exactement ce qu'elle fait dans chacun de ses bouquins, Annie Ernaux, elle raconte la vie, le quotidien, les petites choses, que je mets ça entre guillemets. Et le livre, donc, ça prend la forme d'une sorte de journal d'observation, de réflexion qu'elle a tenu entre novembre 2012 et octobre 2013. Et elle s'était rendue à l'hypermarché Auchan de Cergy, dans le centre commercial donc des Trois-Fontaines. Et elle habite en Cergy. Et elle parle donc de ce qu'elle voit, de ce qu'elle observe. Elle fait notamment des analyses de cette société de consommation dans laquelle on vit, les catégories, les classes de personnes qu'elle voit, parce que c'est dans, s'il y a quelque chose qui rassemble les gens, c'est bien des centres commerciaux, des centres d'alimentation. Tout le monde y a rendez-vous, ouais. Toutes les classes sociales confondues, tu sais, et tout le monde côtoie. On ne va pas dans les mêmes rayons, on n'a pas les mêmes obsessions. Ouais, le rayon bio, ben, c'est pour les plus aisés. Hein, et ce qu'elle notait, c'est que dans les rayons bio, par exemple, il y avait moins de surveillance de gardiens de sécurité parce que c'est les plus aisés. Vous voyez tous les préjugés qui sont encore là?
Absolument.
L'éclairage. On lit ce livre-là et on sent l'éclairage criard sur notre peau. C'est passionnant. C'est une étude sociologique qu'elle a fait et qu'elle réussit comme chaque fois avec admirablement bien.
Oui. Et en plus, elle nous, parce que je ne sais pas si maintenant c'est ce que tu fais, mais moi, depuis que je l'ai lu aussi, quand je vais dans un hypermarché, comme ils disent là-bas, je lève le nez au plafond et je regarde comment le plafond est fait. Parce que c'est pas du tout glamour, hein. Ça, à un moment donné, elle consacre plusieurs pages à ça. Elle dit, une fois, j'ai levé le nez pour regarder. Et alors, vraiment, ce qu'elle a vu, c'est des bouts de tuyaux, c'est des trucs. Enfin, en tout cas, on est loin du clinquant, surtout au moment de Noël, là, comme il y a plusieurs pages qui sont consacrées à ça. Écoute, je voudrais qu'on écoute, Claudia, un extrait. Et j'aurais pu diffuser tout le bouquin. Je me disais, ah ben non, celui-ci. Ah, puis oui, celui-là.
Oui, puis c'est pas très long.
Non, c'est ça. Alors, finalement, c'est celui sur les jouets. J'adore.
J'ai hâte de l'entendre.
Les jouets occupent plusieurs rangées de rayons rigoureusement séparés en garçons, filles. Aux uns, l'exploit. Spider-Man, l'espace, le bruit et la fureur, voiture, avion, char, robot, punching ball. Le tout décliné dans des rouges, verts, jaunes, violents. Aux autres, l'intérieur. Le ménage, la séduction, le pouponnage. Ma petite supérette, mes accessoires de ménage, ma mini téfale, mon fer à repasser, ma baby nurse. Un sac aliment, transparent et rempli hideusement entre étrons et vomi, de croissants et autres nourritures en plastique. Entrevoir une trousse de docteur au milieu de cet arsenal ménager me soulage presque. La reproduction du rôle ne s'embarrasse pas de subtilité ni d'imagination. Tout pareil que maman, en mini. En face, les teintes sucrées des trousses de maquillage, des coiffeuses avec une glace et un siège pour se faire une beauté, des costumes de Blanche-Neige et de princesse. Plus loin, des poupées de haut en bas d'un rayon de 10 mètres. Publicité pour une Barbie au volant d'une Volkswagen, 29,90 €. Je suis agitée de colère et d'impuissance. Je pense aux Femen. C'est ici qu'il vous faut venir, à la source du façonnement de nos inconscients, faire un beau saccage de tous ces objets de transmission. J'en serai.
Elle va loin, hein?
Ah, c'est formidable, faire un beau saccage de tous ces objets de transmission. Oui. C'est là que naissent les préjugés, le sexisme internalisé, celui qu'on perpétue, qu'on a intégré en nous aussi.
Tout pareil comme maman, mais en mini. Ah, oh, j'aime tellement cette phrase. Tout pareil comme maman, mais en mini.
Mais c'est ça.
Mais c'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça. Écoute, il était grand temps que ce livre existe en audio. Alors, merci beaucoup à la collection Écoutez lire chez Gallimard qui a fait lire ça par Françoise Gillard. Alors, Laure Adler, ça, c'en est une autre aussi que tu adores. Tu nous en as parlé. Il y a un lien qui me semble un petit peu évident entre ces deux-là. D'ailleurs, c'est clair. Là, elle nous arrive sur La voyageuse de nuit. Bon, écoute, je te laisse le présenter parce que moi qui maintenant, je ne m'en cache pas, est parvenue jusqu'à l'âge vénérable de 63 ans, j'ai encore de très belles années devant moi, mais quand même, je fais partie de ces gens à qui on cède une place dans le métro. Et j'ai du mal. J'ai du mal. Alors, je te laisse nous présenter La voyageuse de nuit.
Mais non, ils te laissent la place parce qu'ils t'ont reconnu. On lui fait une place, voyons. Non, mais c'est parce que... ce qui est arrivé à Laura Adler, c'est justement ça, mais t'es pas rendu encore à voyager de nuit, toi. Non. Mais Laura Adler, 70 ans, donc, elle a un jour compris que c'était ça. Un jour, on lui cède la place dans l'autobus ou dans le métro, là, je me rappelle plus, mais elle a compris que là, elle était rendue dans cette espèce de croisée des chemins, ce moment, une période charnière où on n'est plus ce qu'on était.
Non, c'est sûr.
Et ça, je dois te dire que j'ai peur de ce moment. Je redoute moi-même. Qu'est-ce que vous voulez? On est dans une société où les inégalités hommes-femmes perdurent par rapport notamment à l'âge, à l'âgisme, par rapport aussi aux apparences. On est toujours dans les sous domination des dictats des apparences.
Il faut que tout soit lisse. C'est ce que j'appelle la lissitude. Impeccable. J'ai inventé le mot. C'est la lissitude.
Lissitude, il faut que les femmes la portent, mais les hommes, eux, sont donc séduisants quand c'est un peu raboteux. Alors, tout ça, il y a ça qui ressort.
C'est vrai, pas vrai.
C'est vrai.
Mais oui, c'est vrai. Mais
elle est formidable parce qu'elle parle de ça. Étant elle-même une femme de lettres, elle nous transmet son... Elle aussi, c'est une forme d'étude sociologique qu'elle fait. Ouais, ouais. Elle nous transmet ça, étant une femme de lettres, avec grâce, avec ironie, avec un charme fou. C'est une femme qui est excessivement intelligente aussi, ça paraît. Donc, je veux dire, et elle le fait avec humour. Donc, déjà là, le voyage de nuit est moins pénible, est un peu plus léger, est un peu plus drôle. Tout en laissant quand même transparaître à travers les failles de ce voyage de nuit et qui se fait pas si simple, qui se fait pas non plus d'une manière si joyeuse. Et c'est toutes ces observations qu'elle fait en regardant les autres vivres, à travers aussi le cinéma, le théâtre, la littérature. Mais elle est allée aussi à la rencontre de gens dans les EHPAD, HPAD, qui en fait c'est un peu comme les CHSLD.
Ici, oui.
Et quand elle a publié ça, c'est sorti pendant la COVID et c'est sorti alors que nous, on était au beau milieu de ce qu'on se remémore ces jours-ci.
Oui, oui.
Donc, cette année horrible pendant laquelle nos personnes âgées sont souvent mortes seules. En parler, j'ai beaucoup de peine. Et ça, c'est aussi le lot de la vieillesse. Et elle met le doigt là-dessus. Au-delà des apparences, il y a aussi le fait de porter toujours les stigmates du vieillissement jour après jour dans l'esprit des gens. Et ça, elle veut casser ça à travers ce livre-là. Et c'est pour ça que je dis faut lire. C'est un livre précieux.
Oui, puis je voudrais dire à la génération, à la tienne, à celle, j'ai l'image de Jean-Sébastien aussi devant moi, un père de famille, mais encore relativement jeune, etc. on ne pense pas, je veux dire, l'injustice qui est faite aux personnes âgées, je suis désolée, je ne supporte pas le terme aîné, d'abord parce qu'il est faux, on est toujours l'aîné de quelqu'un, le cadet de quelqu'un, mais en tout cas, ça, je trouve ça profondément injuste. Et le pire, c'est que plus on vieillit et plus on se rapproche de cela, et plus on se dit, mais attends, là, est-ce que j'ai vraiment assez d'amis autour de moi? Moi, est-ce que j'ai vraiment... Parce qu'on a peur, de mourir seul. On a peur de ça. Absolument. Bon, en tout cas, un extrait de Laura Adler. Avec un jogger.
Devant moi, un homme fait son jogging, débardeur, short, le tout moulant. Malgré la chaleur, il ne semble pas souffrir. Corps longiligne, muscles dessinés. Je l'envie et peste contre mon âge, qui ne m'autorise plus ce genre de plaisir. Au sommet de la route, l'homme s'arrête devant une voiture, ouvre le coffre. Je le vois de dos. Il prend une serviette pour éponger la sueur et se retourne. C'est un monsieur d'un certain âge, ou d'un âge certain, on ne sait plus comment nommer cette frontière invisible, personnelle, à la fois subjective et objective, à partir de laquelle on atteint une contrée où on ne peut plus tricher, ni avec soi-même, ni avec les autres. J'ai l'impression d'avoir été trompé. Pourquoi ? Les vieux n'ont-ils pas droit de ressembler à des jeunes ? Imitent-ils désespérément les jeunes parce qu'ils n'acceptent pas leur âge ? Pourquoi refusent-ils à tout prix de paraître vieux, au mépris de la vérité de leur âge? Mais que signifie la vérité de l'âge?
Et là là, puis alors que j'aime le certain âge et l'âge certain?
Ben, c'est parce qu'elle, pour l'avoir justement rencontrée là, avec ses verres fumés il y a à peu près 7 ans là, de
ouais,
ça,
ouais.
Elle avait des verres fumés en forme de cœur. Alors, elle se promenait avec son look d'éternelle jeunesse. Elle est magnifique. Puis encore, c'est là que je me dis, c'est dans le cœur que ça se
absolument.
Passe. Moi, quand je lui parlais, j'avais l'impression qu'elle avait 25 ans.
Ouais, c'est fou.
Elle l'assumait quand même bien, je trouve, le fait de vieillir à travers son, malgré le fait que, bon, c'est sûr, elle l'écrit, il y a quelque chose de très difficile là-dedans, mais je trouvais qu'elle l'assumait bien, ce qui la faisait paraître figée dans le temps.
Ouais.
Et c'est ça que j'ai trouvé très, très inspirant chez Laura Adler.
Et la voix est encore jeune, hein, parce que j'ai pas précisé, c'est elle-même hein, qui a lu son livre, et aussi, c'est une voix également très jeune. Ah, chère Claudia, tu nous donnes toujours le goût de nous replonger dans de la littérature. Préciser aussi que la version audio, là encore, c'est sorti chez Écoutez lire, Gallimard, lu par Laura Adler, La Voyageuse de nuit, et ça aussi, c'est une nouveauté. On se retrouve bientôt à l'émission.
Avec grand plaisir, j'espère en vrai.
Oh, regarde, on se croise les doigts, ma belle chérie. Je t'embrasse fort.
T'embrasse.
Salut, bye. Au revoir.
Caresse photographiée sur ma peau. Sensible, on peut tout jeter les instants, les photos, c'est libre. Y a toujours le papier collant transparent pour remettre au carré tous ces tourments. On était belle image, les amoureux fortiches. On a monté le ménage, bonheur à deux. Je t'en fiche, vite fait, le morceau de verre qui coupe et s'assène. Lave-la sur le carrelage, la porcelaine. Nous, on n'a pas tenu le coup. Bou, ça coule sur ta joue. On se quitte et y a rien qu'on explique. C'est l'amour en fuite, l'amour en fuite. J'ai dormi, un enfant est venu dans la dentelle. Partir, revenir, bouger, c'est le jeu des hirondelles. À peine installé, je quitte le deux pièces cuisine. On peut s'appeler Colette, Antoine ou Sabine. Toute ma vie, c'est courir après des choses qui sauvent. Des jeunes filles parfumées, des bouquets de pleurs, des roses. Ma mère aussi mettait derrière son oreille une goutte de quelque chose qui sentait pareil. Nous, on n'a pas tenu le coup. Ça coule sur ta joue. On se quitte et y a rien qu'on explique. C'est l'amour en fuite, l'amour en fuite. Nous, on n'a pas tenu le coup. Ça coule sur ta joue. On se quitte et y a rien qu'on explique. C'est l'amour en fuite, l'amour en fuite.
Ah, Souchon. Quand on aime Souchon, chanté par tout le monde, y compris par Maxime Le Forestier. Cette chanson-là, peut-être pour mémoire, vous vous en souvenez, mais elle servait de trame sonore au film de Truffaut qui portait le même titre, L'amour en fuite. Bon, Allons-y avec Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, mine de rien, presque un livre par année, et c'est une vendeuse de bouquins absolument incroyable. Et jamais je n'ai pensé qu'Amélie Nothomb aurait pu s'intéresser à l'audio. Erreur profonde. Et ça, c'est tellement la preuve que l'audio gagne du terrain lorsqu'une femme comme Amélie Nothomb se dit « Tiens, et si je proposais à une grande compagnie de production de livres audio, Audible pour ne pas la nommer, un balado artistico-mythologique ?» Eh bien, elle a proposé et ils ont dit oui. Comment vous dire comment est né ce projet? Comment vous faire comprendre la démarche d'Amélie Nothomb? Ça me semblait un petit peu complexe. Je ne savais pas trop comment faire ça jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo sur laquelle vidéo elle raconte exactement la genèse, mais aussi la façon de procéder pour créer ces balados, je vous le disais, aujourd'hui disponibles chez Audible. Alors, ça s'appelle « La divine comédie d'Amélie Nothomb ». Et on l'écoute.
Je suis la romancière Amélie Nothomb. J'ai publié à ce jour une trentaine de romans dans lesquels la mythologie joue parfois un très grand rôle. Il y a un motif mythologique qui me fascine, c'est la descente d'un mortel ou d'une mortelle vivant dans le territoire souterrain des enfers. Pourquoi est-ce que certains mortels sont tentés d'aller vivants aux enfers? C'est parce que c'est l'unique possibilité d'élucider certains mystères, de rencontrer certains personnages, voire même parfois d'obtenir une transformation personnelle. L'idée, c'est que plus on s'enfoncera vers la noirceur, plus il deviendra possible d'accéder à la lumière. De cette divine comédie du XXIe siècle, ma divine comédie, je suis certaine de rapporter avec vous une expérience de vie nouvelle. Alors allons-y, commençons ce voyage.
Audible Original présente La divine comédie d'Amélie Nothomb, un voyage mythologique des enfers au paradis, un documentaire audio réalisé par Laureline Amagneux, écrit avec Amélie Nothomb.
Bienvenue chez moi, dans ce salon où se situe la bibliothèque. Il y a bien sûr l'Iliade et l'Odyssée, cela ne vous étonne pas. Il y a également l'Énéide de Virgile, la divine comédie de Dante. J'ai toujours eu l'intuition que la vérité se trouvait bien plus dans les mythes qu'ailleurs.
Première étape, la descente aux enfers. Épisode 1, sublimer les tourments éternels. Des poèmes de Virgile aux sculptures de Rodin.
Nous voici ici chez moi. J'aime beaucoup cet appartement parce qu'il me fait penser à une grotte. C'est censé être un rez-de-chaussée, mais c'est plus profond que ça. Il y a un moment où on tombe carrément dans un sous-sol. Et quand on est dans ce sous-sol, on entend, peut-être l'entendrez-vous tout à l'heure, le bruit du métro. Le métro qui passe en dessous de soi. Et c'est comme si on entendait les entrailles de la terre qui grondaient. Ça fait très descente aux enfers.
Alors, bien évidemment, si vous en voulez plus, eh bien, il va falloir vous rendre sur le site d'Audible. Si vous écrivez sur le moteur de recherche qui appartient au site, comme tous les catalogues, tous les sites en ont un, vous écrivez « La divine comédie d'Amélie Nothomb » et vous allez tomber sur toutes sortes de descentes aux enfers, comme celle qu'on avait commencé à faire de chez elle, dans son bureau, qui donne directement sur un métro souterrain qui, comme vous l'avez entendu, passe régulièrement. Et elle adore ça. Bon, ben écoutez, tant mieux. Il en faut pour tous les goûts. Une autre preuve que le livre audio gagne du terrain, c'est que beaucoup y voient de plus en plus de façons de diffuser des bouquins qui s'écoutent. Bon, quand vous êtes en voiture et que vous faites aller votre GPS, êtes-vous plutôt Waze ou plutôt Google Maps ou plutôt une autre version de GPS? En tout cas, si vous me répondez Waze ou Waze, on a Waze, hein, si vous répondez Waze, ça devrait vous intéresser. Je suis tombée sur ce papier qui nous vient de l'actualité, écrit par Clément Solim, qui dit « Attention, attention, il ne suffira pas d'être utilisateur connecté de WAS pour profiter de cette audiomanne, car c'en est une. En effet, l'offre s'adresse uniquement aux abonnés d'Audible qui pourront accéder au catalogue d'audiolivres depuis l'outil de guidage. Ainsi, Audible sur WAS n'est finalement qu'un tuyau de diffusion supplémentaire. Vous me suivez bien, c'est pas parce que vous écoutez WAS, parce que vous êtes branché sur WAS, que vous allez pouvoir écouter tous les livres audio que vous voulez. Il faut pour cela être abonné d'Audible. OK? Alors, c'est quand même une intégration intéressante parce qu'elle offre, nous dit M. Solim dans son papier, elle offre aux conducteurs le loisir d'écouter leur contenu favori en toute simplicité sans avoir à passer d'une application à l'autre. En d'autres termes, sur WAS, vous allez directement avoir le petit dessin de l'application d'Audible. Vous cliquez là-dessus et vous allez avoir accès, enfin, du moins, la personne qui est assise à côté de vous, parce que si vous êtes au volant, ça va être difficile. Justement, parlons-en de la sécurité. De ce type d'opération, les avis sont partagés. Il y a une étude canadienne qui n'impliquait pas manifestement d'opérateurs vendeurs d'audiolivres, mais qui indiquait qu'en 2018, que l'écoute d'ouvrages pouvait aider à se concentrer sur la route lorsqu'on conduit. Mais voilà-t-il pas qu'en Caroline du Nord, il y a un homme qui a été victime d'un accident de voiture et qui a affirmé avoir perdu le contrôle de son véhicule parce qu'il écoutait un livre audio. Bon, écoutez, de toute façon, dans tous les cas, soyez et restez prudents lorsque vous êtes au volant pour écouter ou non des livres audio. Le principal, c'est quand même la route. Et puis, ben, rendez-vous éventuellement sur WAS. Avez-vous déjà essayé en période de confinement de faire des casse-têtes, ou les mêmes que ceux qui reviennent à la mode, ou peut-être même de la peinture à numéro, que sais-je encore? Eh bien, moi, c'est ce que je fais. Et en ce moment, j'écoute « L'élégance du hérisson », bouquin de Muriel Barbery, qui est lu par Salomé Lelouch et Myriam Boyer. Là encore, c'est chez Écoutez Lire, c'est un pur hasard et c'est surtout un pur régal extrait.
Je m'appelle Renée. J'ai 54 ans. Depuis 27 ans, je suis la concierge du 7 rue de Grenelle. Un bel hôtel particulier avec cour et jardins intérieurs, scindé en 8 appartements de grand luxe, tous habités, tous gigantesques. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette. J'ai des oignons aux pieds et, en croire certains matins auto-incommodants, une haleine de mammouth. Je n'ai pas fait d'études, et toujours été pauvre, discrète et insignifiante. Je vis seule avec mon chat, un gros matou paresseux, qui n'a pour particularité notable que de sentir mauvais des pattes lorsqu'il est contrarié. Lui comme moi, ne faisons guère d'efforts pour nous intégrer à la ronde de nos semblables. Comme je suis rarement aimable, quoique toujours polie, on ne m'aime pas, mais on me tolère tout de même, parce que je correspond si bien à ce que la croyance sociale a aggloméré en paradigme de la concierge d'immeuble, que je suis un des multiples rouages qui font tourner la grande illusion universelle selon laquelle la vie a un sens qui peut être aisément déchiffré.
C'est un régal que ce bouquin-là. Oui, ça a été aussi un film qui était interprété dans le rôle de cette concierge hyper érudite par Josiane Balasco, qui va rencontrer une jeune fille hyper intelligente, mais qui est convaincue que le jour de ses 13 ans, elle va se foutre en l'air. Un dialogue absolument formidable. L'élégance du hérisson qui vient mettre un terme à cette émission des livres plein les oreilles, réalisée et animée pour vous par Clotilde Seille, appuyée comme toujours de façon fort élégante et fort charmante par l'ami Jean-Sébastien Laliberté qui est en régie. Merci à mes invités Benoît Chalifoux, Derek Aucoin à qui j'ai rendu hommage, Claudia Larochelle et puis même un petit peu Amélie Nothomb. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mettez-vous des livres entre les oreilles. C'est une autre façon de lire et elle est passionnante. Salut.